Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose l'interview de l'autrice Jessie Magana. Elle était présente au Festival du Livre de Becherel il y a quelques semaines. Souvenez-vous, avec Yann Barbotin de Grand Tout et une équipe aux petits oignons, nous avons réalisé une émission spéciale avec plein d'invités. Voici donc Jessie Magana.
Bonjour Juliana.
Bonjour Jessie. Je suis vraiment très heureuse de partager ces quelques minutes avec toi ici à la Maison de la Poésie avant une lecture qui va être dessinée en duo donc avec Julien. Nous allons parler dans quelques instants. Mais avant cela, comme Yann vient d'évoquer, effectivement, nous nous connaissons. Nous nous sommes rencontrés pour la sortie d'un livre précédent qui s'appelle « Nos ailes déployées », paru aux éditions Thierry Magnier en 2021 à l'occasion d'une interview pour le Festival de Montreuil à Paris où il y a question déjà de jeunesse. Donc ma première question d'entrée de jeu, avant même de dire de quoi nous allons parler pendant ces quelques minutes, c'est écrire pour la jeunesse, autant qu'adulte, ça demande quelque chose d'un peu plus, une attention particulière, peut-être un supplément d'âme.
Ah, c'est mignon. J'ai l'habitude de dire que ça implique de réveiller l'enfant qui sommeille parfois depuis très longtemps en nous. Donc c'est un plaisir sans cesse renouvelé, puisque on ne retombe pas complètement en enfance, mais en tout cas on réveille à la fois les enthousiasmes et aussi les questionnements, les peurs qu'on pouvait avoir quand on était enfant. Donc c'est très exigeant aussi la littérature de jeunesse, parce que nous avons une responsabilité quand nous nous adressons aux jeunes, que ce soit les enfants ou les adolescents, les adolescentes.
Alors, j'étais il y a pas très longtemps, j'ai eu la chance d'interviewer Henrique Pessin, que tu dois très bien connaître, bien sûr. Louis aussi, il écrit de manière prolifique pour la jeunesse. Et il y a dit quelque chose, il a dit, derrière ce mot, littérature jeunesse, on peut garder un sas, une certaine tranquillité pour être libre de création, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de la littérature générale. Est-ce que tu partages ce sentiment?
Alors oui, il y a une forme de liberté effectivement, c'est-à-dire que comme on considère que tout ce qui est fait pour les enfants n'est pas très sérieux, on nous laisse un peu faire.
C'est ça, c'est ce qu'il voulait dire.
Voilà, on nous laisse un petit peu faire. Donc, mais comme je le disais, on a aussi une responsabilité, c'est-à-dire que voilà, quand on s'adresse à des enfants, on ne peut pas faire non plus n'importe quoi. On s'adresse à des personnes qui sont en train de grandir, de se former, de commencer à réfléchir par elles-mêmes. Donc on a aussi cette responsabilité-là. Mais la liberté, c'est effectivement déjà la liberté de la forme, et ça c'est vrai qu'en jeunesse on a une telle inventivité, que ce soit en matière de fabrication du livre, de format, d'illustration, on peut vraiment imaginer toutes sortes de livres, et puis aussi dans la manière dont on s'adresse aux jeunes, on peut inventer vraiment de plus en plus de formes, que ce soit en roman par exemple, on a un mélange incroyable de genres avec du roman d'aventure qui se mélange à de la fantaisie, qui se mélange à de la science-fiction, etc. Et en documentaire, moi aussi, je travaille beaucoup en documentaire. Même chose, on peut inventer vraiment de nouvelles manières de donner de l'information aux enfants et aux ados. Donc oui, je revendique aussi cette liberté, oui.
Voilà, toi qui effectivement publie depuis longtemps et publie pas mal, beaucoup même, beaucoup de livres. Je veux citer juste quand même pour que les gens puissent avoir une idée. Là, il y a eu Gisèle Halimi qui a été publiée, Non au viol, en 2021. Il était publié chez Actes Sud, mais aussi chez Gallimard, dans une autre collection.
Oui, il y a eu un autre livre sur Gisèle Halimi, oui, tout à fait.
Et il y a eu aussi, là, plus récemment, en 2022, un livre non collectif dans lequel participe Nimrod, le poète, c'est bien ça?
Oui, c'est ça. En fait, dans la collection Ceux qui ont dit non chez Actes Sud Jeunesse, on est un certain nombre d'auteurs et d'autrices. On a créé un petit collectif et je reviens justement d'un atelier d'écriture que j'ai animé avec Maria Poblette, que je salue. Et effectivement, il y a Nimrod qui a fait... partie des auteurs.
Mais cet homme, c'est un sac à bisous. C'est vraiment
On l'appelle notre prince.
C'est incroyable. Il est africain.
Il est tchadien.
Exactement. Il a fait un livre sur la neige, sur la découverte de la neige, qui est absolument magnifique. Je l'ai eu en interview, mais ça remonte à très très longtemps. Aujourd'hui, nous sommes ici ensemble à Bécherel, qui est une ville magnifique, n'est-ce pas, pour parler d'un peu plus grand, du pays, de la France, avec l'Atlas d'histoire d'où vient la France, qui a été une collaboration, on va dire, publiée aussi chez Actes Sud en 2020. Et ce sont 34 cartes illustrées de la préhistoire jusqu'en 2015, donc jusqu'à nos jours. C'est quand même... Enfin, déjà, c'est génial de le découvrir. Il y a des points forts, des moments d'histoire. On va découvrir pourquoi la France s'appelle la France, par exemple. Pourquoi nous sommes ici en France?
Oui, alors on a essayé de recréer un autre roman national que le roman national qu'on nous sert habituellement avec les bons clichés du territoire français et de la France aux Français. Non, ce qu'on a voulu faire dans ce livre, c'est montrer comment la France, elle s'est construite au fil du temps grâce aux différents apports de population, aux différentes cultures qui se sont mélangées sur ce territoire. Et donc ce terreau, ces racines dont on parle beaucoup aujourd'hui à Bécherel, on a eu à cœur de montrer qu'elles étaient plurielles. Et effectivement, la France ne s'est pas toujours appelée la France. La France n'a pas toujours eu cette forme d'hexagone. Elle a été parfois beaucoup plus petite. Elle a aussi parfois été très très grande quand elle avait un empire colonial. Et ça, c'est un plaisir aussi de le faire découvrir aux enfants de manière visuelle par des cartes.
C'est vrai que ce livre, il est empreint de messages. J'ai trouvé que c'est très malin d'aborder toutes ces situations de l'histoire de manière très sérieuse, hein, parce qu'elle a été aussi approuvée, si j'ose dire, par un historien qui vous a lu, qui signe la préface du livre. C'est aussi un travail collectif, je disais tout à l'heure, avec Laure Flavigny, qui est éditrice, également avec Aurélie Bossière, qui est cartographe, et ça ne s'invente pas, c'est génial, on a envie de connaître davantage sur ce métier. Et puis Julien Bilodeau, qui sera d'ailleurs sur scène avec toi tout à l'heure à 15h30 ici à Bécherel pour cette lecture dessinée. Facile d'une collaboration comme ça? De toute façon, tu n'étais pas à ton premier atlas.
Oui, c'est le deuxième, hein, effectivement. Le premier atlas, Comment va le monde, était sorti 3 ans plus tôt. C'est un énorme travail, hein, c'est-à-dire que c'est 3 ans de travail. En plus, on a eu le Covid en milieu, donc c'était un peu compliqué. Non, ça a été un plaisir, d'autant qu'effectivement, on a eu la chance de pouvoir collaborer avec Joël Cornette, hein, le grand historien, qui a pu relire, l'ensemble de l'ouvrage. Oui, c'est un projet énorme, mais comme l'entreprise aussi de proposer une autre histoire de France, hein, et de synthétiser en une seule carte une époque, hein, donnée. Donc il y a 34 dates, on a sélectionné, donc déjà c'était compliqué de sélectionner 34 dates. Alors à la fois, évidemment, on retrouve les grandes dates qu'on a tous et toutes en tête, hein, voilà, la Seconde Guerre mondiale, la Révolution française.
On a même la préhistoire d'ailleurs au début.
Voilà.
Attention, on a les Africains qui arrivent.
Voilà, en fait, on fait démarrer l'histoire de France bien avant que la France existe, bien avant que les nations existent, ouais, tout à fait, il y a 1,2 million d'années, au moment où les premiers hominidés sont arrivés d'Afrique en Europe.
Yeah.
Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus. Vous écoutez l'interview de Jessie Magana à l'occasion du Festival du Livre de Becherel. C'était il y a quelques semaines sur l'antenne de Canal B. Et donc, je disais tout à l'heure que c'est un livre qui est malin parce que chacune de ces cartes va nous donner à voir grâce aux illustrations et de manière précise grâce au travail de la cartographe et aussi grâce à tes textes. On va découvrir des points très forts de ces moments historiques qui ont été choisis. Je prends par exemple les moments de croisade. Quand on est parent et on a ses enfants, parce que cet atlas s'adresse à partir de peut-être 8 ans.
8 ans, oui.
Voilà. Et qu'on lit avec ses enfants. Font cette carte au moment des croisades. Eux, ils sont en train d'engurgiter une matière absolument imbuvable dans l'établissement scolaire. On arrive avec ceci, ça a l'air quand même d'aider à la digestion, si j'ose dire, non ?
C'est pas sympa pour les enseignants.
Bah
les
oui,
enseignantes.
Mais il faut appeler un chat, j'ai des enfants, je sais de quoi je parle.
Ouais, moi, c'est vrai que quand les enfants me disent qu'ils n'aiment pas l'histoire, je leur dis, mais tu n'aimes pas qu'on te raconte des histoires ? Je connais personne qui n'aime pas qu'on lui raconte des histoires. Donc nous, c'est une manière effectivement de raconter l'histoire d'une autre manière. Donc pour reprendre l'exemple des croisades, c'est quand même assez amusant de voir comment se sont constitués comme ça ces groupes de personnes qui partaient complètement à l'aventure pour aller dans un endroit très lointain. Et oui, c'est très intéressant de voir comment les enfants réussissent à s'approprier ces différentes époques. Alors il y a aussi des cartes qui sont plus culturelles. Hein,
oui,
voilà,
tout à fait.
On a aussi la Renaissance, on montre voilà, souvent aussi que ce sont des mouvements qui sont européens, avec la Renaissance par exemple, avec le siècle des Lumières.
On a mai 68,
ah bah
parlons-en,
oui.
Puisque c'est le moment là où on évoque en force la jeunesse, ça donne envie avec l'arrivée de vraiment de la musique en place publique, tout le monde veut vivre le rock, etc. Moi j'ai adoré, c'est très Canal B cette fiche.
Oui, on s'est bien amusé avec cette carte, et le travail de Julien aussi, c'était à chaque fois de trouver une ambiance graphique pour chaque carte. Et donc l'ambiance mai 68, c'est une ambiance couleur à la fois rouge et couleur pavée.
Couleur pavée, j'adore.
avec des graffitis et des pancartes et tout ça. Sur les cathédrales, par exemple, on a une carte qui ressemble à un vitrail. Sur Louis XIV, on a une carte qui est couleur dorée. Pour le roi soleil. Donc Julien a vraiment fait un travail extraordinaire de presque de mise en scène de chaque carte avec des choix graphiques extrêmement forts.
Alors on va dire quand même un mot sur Julien qui est un dessinateur rennais. Il dessine aussi pour la presse, notamment le magazine Georges, il collabore. Donc il y a un dessin qui est très poétique, très doux, et il fait passer des messages qui peuvent être un peu durs avec des choses qui sont agréable aux yeux et ça c'est vraiment tout doudou. Il a vraiment attiré mon attention, notamment avec Feu au sommeil dans la montagne, paru aux éditions Actes Sud là aussi en 2021, mais surtout Le tour du monde de terres indigènes en 2016 chez Actes Sud. Ça c'est pas mal, on parle des petits indiens, j'adore. Il y a une page Instagram qui est pas mal aussi, mais nous regrettons qu'il n'a pas mis des choses depuis septembre 2024. Oh là, il nous a laissé sur ses croquis d'été qui sont absolument magnifiques à regarder. J'espère qu'il va revenir avec plus d'illustrations pour nous aussi sur les réseaux sociaux. Toujours est-il qu'il va aujourd'hui à 15h30 être en dessin pour accompagner ta lecture. C'est sur réservation, j'imagine que tout est déjà pris et ceux et celles qui sont en train de nous entendre de l'autre côté de la radio n'auront pas la chance de vous voir ici à Becherel. C'est pourquoi, Jessie, je te demandais si tu étais d'accord de nous faire un petit extrait de ce qui va se passer dans cette salle dans quelques instants.
Alors, j'ai choisi de vous parler d'une date hautement symbolique quand on parle de racines. 1789, la France entre en révolution. En 1789, Louis XVI est confronté à une crise très grave. Les récoltes de blé ont été mauvaises, plusieurs années de suite, et le peuple manque de farine. Le prix du pain ne cesse d'augmenter. Et le pain, c'est la base de l'alimentation de l'époque. Et puis, le royaume de France a participé à de nombreuses guerres en Europe. Il a aussi aidé les États-Unis dans leur guerre d'indépendance. Or, les guerres coûtent cher. Les caisses du royaume sont vides. Le roi doit trouver de l'argent. Cet argent, il ne peut l'obtenir qu'en prélevant de nouveaux impôts. Mais les impôts, à l'époque, tout le monde n'en paie pas. En 1789, la société est basée sur les privilèges, c'est-à-dire des droits et des avantages. D'un côté, il y a ceux qui ont des privilèges. De l'autre, ceux qui n'en ont pas. Et ceux qui n'ont pas de privilèges sont bien plus nombreux que ceux qui en ont. C'est la noblesse qui détient le plus de privilèges. Les nobles, ce sont les grandes familles du royaume, les héritières des seigneurs du Moyen-Âge. Ils détiennent d'immenses terres cultivées par des paysans qui leur reversent pratiquement tout le fruit de leur récolte. Les nobles possèdent souvent d'incroyables richesses, des châteaux, des palais, de l'or. Certains font partie de l'entourage du roi, voire même de sa famille. Ils participent au gouvernement. Ils ont le pouvoir. L'ont-ils mérité par leur travail? Non. Ils se sont contentés d'être nés dans la bonne famille.
Magnifique. Ah, nous ne sommes pas assez nombreux pour applaudir très chaleureusement Jessie Magana ici, dans le studio, dans la maison du livre à Becherel. Et d'ailleurs, nous tenons les micros à la main, c'est pour ça que moi-même, je ne vais pas le faire, mais le cœur y est. Et je pense que les gens qui vont assister à cette lecture dessinée dans quelques instants, à 15h30, avec vous, Julien et toi, ils vont sortir de là vraiment dans un état de contemplation certain, parce que tout ce que tu viens de dire, c'est une évocation de cette lecture qui dure 45 minutes. Et effectivement, quel rapport avec l'actualité, n'est-ce pas? Comme
oui,
quoi
c'est
l'histoire
ça.
Qui ne cesse de se
renouveler. Exactement. Et Julien donc dessine en direct, hein, ce qui est assez fascinant, c'est de voir comment se construit au fur et à mesure de la lecture une illustration en direct projetée sur un écran.
Alors voilà, cuisine interne.
Donc c'est une immersion totale.
Je m'étonne. Mais ça sera vraiment, Yann, ma dernière question. Mais j'ai quand même cette curiosité. Cuisine interne, peut-être que Jessie n'aura pas envie de nous raconter. Il y a un rythme à trouver entre le fait que tu fais la lecture et que lui, il dessine.
Ça se répète, hein, comme tout spectacle. Hein,
très
voilà.
Bien, mais il y a un peu d'impro là-dedans pour lui quand même, peut-être.
Ah oui, bien sûr.
Toi, ouais.
Oui,
aussi,
non, je me suis.
Voilà.
Absolument. Ouais, tout à fait. Il y a une interaction entre nous deux, etc. Donc, ouais, faut venir pour voir.
Ok, très bien. J'ai essayé de trouver mon ticket. Merci beaucoup.
Merci,
Jessie.
Juliana.
À bientôt,
à bientôt
et bon spectacle.
C'est la fin de l'émission. Le nombril de Vénus sur Canal B.
Cette émission, vous pouvez la trouver également sur le site web de Canal B, canalb.fr, l'émission Le Nombril de Vénus. Et pour l'heure, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous bientôt ici sur le 94 MHz. Allez, bisous, bye!
Tonight, spinach cheese, we should barter.